Média. Philippe Vandel.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
La suite du conflit Canal Plus TF1, l'ARCOM veut tirer les leçons de la situation et plaide pour compléter la loi. L'audience des funérailles d'Elisabeth II en France, les millions du journal Libération et puis un nouveau média d'investigation économique avec un célèbre investisseur du monde économique. Et puis en fin de journal, focus sur le spectacle d'humour de Caroline Vigneault qui diffusait à la télévision.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le podium, Louise.
Ils ont regardé sur France 3 Mémoire Trouble. Ils ont vraiment en large majorité regardé ce téléfilm. 4 820 000 téléspectateurs hier soir, 24,7% de part d'audience. France 3 qui est donc loin devant Massinger, 2 millions de plus, hein, 2 millions de moins donc sur Massinger. TF1, 2 720 000 téléspectateurs hier soir. C'est en baisse, hein, ça continue de baisser, 13,6% de part d'audience. En nombre de téléspectateurs, c'est le plus petit score depuis le début de cette saison. Et puis troisième, une petite déception pour la série La Maison d'en Face, lancée sur M6 hier soir. 1 620 000 téléspectateurs en moyenne sur les deux premiers épisodes, 8,9% de part d'audience.
Europe 1, le journal des médias.
Qui démarre avec la suite du conflit Canal Plus TF1. Le président de l'ARCOM, c'est le nouveau nom du CSA, appelle à changer la loi.
Roch-Olivier Maistre était auditionné hier après-midi devant les députés, devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Alors parmi bien d'autres sujets, celui du conflit qui oppose Canal Plus et TF1 est arrivé sur la table avec la question du rôle de l'ARCOM pour aider à résoudre ce différend. Alors pour rappel, Canal Plus a coupé la diffusion des chaînes du groupe TF1 faute d'avoir trouvé un accord commercial pour renouveler leur contrat de diffusion. Canal Plus estime que TF1 demande beaucoup trop d'argent. La coupure, elle, prive totalement l'accès aux chaînes TF1 à certains foyers en zone blanche qui ne reçoivent la télé que via le satellite, via Canal Plus. Donc, une situation que Roch-Olivier Maistre a qualifiée hier de prise d'otage.
Le litige qui oppose TF1 et Canal est un litige purement commercial. Sur un montant de rémunération, il n'est pas normal que les téléspectateurs soient pris en otage. Et de ce point de vue-là, je l'évoque devant vous, le fait de songer à compléter la loi me semble devoir être examiné sérieusement parce que ce type de litige, on les a déjà connus par le passé, on en connaît un aujourd'hui, on peut en connaître d'autres demain puisqu'il y a d'autres négociations qui sont à venir et les téléspectateurs n'ont pas à être l'otage d'une négociation purement commerciale.
Roch-Olivier Maistre devant donc la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Compléter la loi, ça veut dire réfléchir à des dispositions pour permettre à l'ARCOM d'empêcher la coupure du signal, réfléchir aussi à, je cite, une obligation de portage des diffuseurs satellitaires, ce qui, dans ce cas précis, aurait contraint Canal Plus à continuer de diffuser les chaînes du groupe TF1 en zone blanche. Enfin, Roch-Olivier Maistre a rappelé que l'ARCOM continue encore aujourd'hui de jouer un rôle de médiation entre Canal Plus et TF1 et qu'il espère sortir de ce litige rapidement.
Les funérailles d'Elisabeth II, c'était lundi, et elles furent très suivies en France.
Oui, hier, je n'avais pas encore les chiffres des chaînes d'information, donc j'attendais de les avoir pour vous donner le chiffre global. Alors, c'est pas si facile, en fait, d'en donner un, parce que les éditions spéciales des chaînes n'ont pas commencé toutes en même temps et n'ont pas duré le même temps non plus. Celle avec de TF1, par exemple, avec Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray, a commencé à 8h. Julien Bugier, lui, a pris l'antenne à 10h sur France 2. Les chaînes info, elle était en spéciale toute la journée, depuis plusieurs jours même, on peut dire.
C'est vrai.
Et M6 a prolongé son journal du midi pour faire suivre la cérémonie. Donc, on va se baser sur les audiences entre midi et 13h. C'est celle, en fait, pendant le cœur de la cérémonie. Eh bien, il y avait 7,5 millions de Français devant leur télé pour suivre l'événement, selon Médiamétrie. Ça veut dire que 66% des Français qui regardaient la télévision regardaient les funérailles.
C'est énorme. Les deux tiers des gens devant la télé étaient devant les funérailles.
Et alors, à titre de comparaison, pour vous rendre compte, c'est un petit peu plus que les obsèques du prince Philippe, le mari de la reine, en avril 2021. Ça avait été suivi par 7 millions de Français, tout de même. Et c'est quand même moins que celle de Diana, suivie par 10 millions de téléspectateurs en 97. Bon, c'était une époque où la télé n'avait pas autant de chaînes, donc le choix de programme était moins important. La télé était aussi bien moins puissante, il n'y avait pas les réseaux sociaux, pas de plateforme, et puis Internet commençait tout juste à être connu du grand public. J'ai regardé, en mai 97, il y avait seulement 270 000 foyers qui avaient une connexion Internet.
Vous avez fait un petit lapsus, à l'époque, en 97, la télé était bien plus puissante qu'aujourd'hui.
J'ai dit moins.
Oui, vous avez dit moins, c'était
bien plus,
mais on a très bien compris ce que vous vouliez dire. Voilà.
Évidemment.
La télé était moins puissante et il n'y avait pas les réseaux. réseaux sociaux était plus puissante car il n'y avait pas les réseaux sociaux. Alors si même moi, même si le rectificatif se trompe lui-même, on n'est pas avancé.
Bon, voilà pour la France. En tout cas, on ne connaît pas encore l'audience mondiale de l'événement. Les projections avancées étaient de 4 milliards de téléspectateurs. Je vous dirai dans les jours à venir si elles avaient vu juste.
On passe du côté de la presse écrite et en France, Libération, le journal Libération, obtient 15 millions d'euros du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.
Oui, je vous avais fait part des rumeurs qui circulaient autour de l'aide qu'il comptait apporter au journal. Un chiffre avait même été évoqué il y a 2 semaines, un prêt de 20 millions d'euros. Ce sera finalement 15. Alors 14 millions prêtés, remboursables dans 4 ans, et 1 million donné au fonds de dotation pour une presse indépendante. 15 millions, c'est exactement la somme que Denis Oliven, lorsqu'il était encore co-gérant de Libération, avait déclaré rechercher. C'était il y a quelques semaines. 15 millions pour faire face aux difficultés financières. Le journal devait être à l'équilibre en 2023, mais ce ne sera finalement pas le cas avant 2026. La faute à la crise du Covid et à la hausse du prix du papier. À noter que Daniel Kretinsky ne devient pas actionnaire du journal. Libération ne peut pas en avoir puisqu'il a été placé dans le fonds de dotation pour une presse indépendante. Ça protège son indépendance éditoriale.
Et puis, hasard de l'actualité, je vous informe que demain, nous recevrons Marie Colmant et Gérard Lefort, anciens journalistes à Libé, pour cette BD Libé, les années folles 80-96. Et puis, hasard de l'actualité, il est également question d'un milliardaire et d'indépendance éditoriale. Un nouveau journal en ligne va voir le jour en France. Il va s'appeler L'Informé, un média consacré à l'économie, avec comme investisseur cette fois Xavier Niel.
Oui, l'annonce vient tout juste d'être faite hier. L'Informé verra le jour fin octobre, avec un objectif pour se distinguer des autres médias économiques, publier des enquêtes et des informations exclusives. Forcément, avec une telle ambition, une question se pose, celle du financement et donc indirectement forcément de l'indépendance éditoriale. L'Informé a prévu de compter sur ses lecteurs déjà, avec un abonnement à moins de 10 euros, à 9,99 par mois, et des appels aux dons aussi. Et puis il y a donc ce célèbre investisseur Xavier Niel qui finance déjà d'autres médias, on peut citer notamment Le Monde, Nice Matin. Mais est-ce compatible de faire des enquêtes dans le milieu économique et d'avoir comme investisseur un gros acteur du secteur, Xavier Niel? Eh bien, j'ai posé la question au fondateur et directeur de la rédaction de ce nouveau journal, L'Informé, Gilles Tanguy.
On ne s'interdit aucun secteur, aucun dirigeant, donc on parlera de tout et tout le monde, donc y compris de lui, de son entourage, de ses amis, de ses ennemis aussi. J'ai obtenu de lui toutes les garanties d'indépendance possibles. En fait, c'est les mêmes que celles qui est en vigueur au Monde, qui est un peu un modèle en France là-dessus. On aura par exemple une société des journalistes. Vous savez, la société des journalistes, c'est la rédaction en fait. Elle aura 34% des parts de la société, elle aura un droit de veto sur le changement d'actionnaire, un droit de veto aussi sur la nomination d'un nouveau directeur de la rédaction. Il y aura une charte d'éthique, il y aura un comité d'éthique. Bref, en fait, Xavier Niel ne pourra pas intervenir sur la ligne éditoriale du média.
Pardon de cette question, c'est votre bébé qu'on entend à la fin?
Non, c'est celui de Gilles Tanguy, donc, qui lance ce média, qui est un ancien directeur numérique du groupe Prisma Média, notamment de Capital, magazine d'économie. Et pour lancer ce nouveau média d'investigation économique, il dit avoir recruté une douzaine de journalistes, et puis ça va continuer. Il espère pouvoir former une rédaction de 15 à 20 personnes. À noter qu'il n'y aura pas d'objectif sur le nombre de publications par jour ou par semaine. Il m'a dit que l'info primait. Il faut du temps pour sortir des enquêtes. Le site, lui, sera lancé fin octobre.
Et on termine ce journal avec le focus programme du jour, W9, qui diffuse le spectacle de l'humoriste Caroline Vigneault, le titre « Caroline Vigneault croque la pomme ».
C'est son second spectacle après le très réussi « Caroline Vigneault quitte la robe ». Cette humoriste, vous la connaissez peut-être, c'est une ancienne avocate reconvertie. C'est de son ancien métier dont il était question dans son premier One Woman Show. Pour le second, Caroline Vigneault s'attaque cette fois au féminisme, avec des sketchs qui entendent briser des tabous, règles, plaisir, masturbation féminine, entre autres. Et puis surtout, le plus réussi, un long premier sketch de 45 minutes, qui est une sorte d'histoire du féminisme. Elle parvient à revenir avec humour sur plusieurs dates. Ça commence avec Adam et Ève, puis les questions des grandes avancées, droit de vote des femmes, arrivée dans les grandes écoles, divorce, reconnaissance du viol conjugal aussi, par exemple. Toujours de manière très drôle, je vous rassure. Exemple avec cet extrait où Caroline Vigneault parle de code civil.
Moi, mon préféré, c'est l'article 213. L'homme doit protection à la femme. La femme doit obéissance à son mari. Obéissance? Écrit dans le code civil français, obéissance? Oui, la France était un état taliban. Ça veut dire que pour être une femme libre, il fallait être veuve. Oui, bois-le ton thé, mon amour.
On reconnaît la patte d'avocate de Caroline Vigneault. Ce long sketch ressemble d'ailleurs à une plaidoirie pour les femmes, avec non pas tant l'objectif de convaincre, mais plutôt de faire rire. Et c'est ce que m'a bien expliqué Caroline Vigneault.
Quand j'ai parlé de ça, je m'en souviens très bien que j'allais faire un sketch sur l'histoire de féministes. Les gens me regardaient avec des yeux ronds en disant voilà, ça va être chiant. Et c'est vrai que même dit comme ça, ça a l'air un peu rébarbatif. Mais dès que vous mettez une vanne, et comme c'était vraiment quand je l'ai écrit, je m'étais mis ça comme objectif. Une date, une vanne. Il n'y a pas une seule date où il n'y a pas de vanne. C'était vraiment hyper important pour moi. Parce que par le rire, c'est comme un wagon dans lequel on peut mettre quelque chose et on peut atteindre les gens beaucoup plus facilement. Par le rire, on montre en plus l'absurde d'une situation. Et donc même les gens se disent, c'est vrai que c'est dingue cette histoire. Et en plus, l'avantage avec ce sketch, c'est quand vous cumulez comme ça toutes ces dates les unes après les autres, vous dites, ah mais on revient de loin quand même.
Caroline Vigneault, Croque la pomme, est diffusée demain soir à 21h05 sur W9.
Merci beaucoup Louise Bernard, on retrouve ces infos dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain Louise, pour un nouveau journal des médias.
À
et
demain.
Peut-être les audiences mondiales en milliards.
Ah j'espère, je les attends.